tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand avec la technique Flo des Cailloux que vous connaissez tous, qui vous a préparé des cocktails inattendus, musicaux, ça va sans dire. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir François Cereza pour Pavillon Noir, les joyeuses et terribles aventures des derniers flibustiers français aux Antilles. Ça vient de paraître aux éditions de Paris. François Cereza, ça fait déjà longtemps que vous êtes venu déjà pour pas mal de sujets. On avait parlé des princes de l'argot, je me souviens.
Oui, tout à fait.
De plusieurs romans.
Oui.
Alors, pourquoi ce titre, Pavillon Noir? C'est un hommage, bien compris, aux libertaires de l'île de la Tortue de la Jamaïque. Et votre précédent livre, dont on n'a pas parlé sur ces ondes-là, c'était sur le western. Je me suis demandé si les flibustiers entre les cow-boys et les flibustiers, il n'y avait pas un petit point commun.
Vous savez quel est le point commun? C'est l'enfance. C'est-à-dire que quand on est petit, on aime bien les... Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne mon époque, on aimait bien les cow-boys et les indiens, bien sûr. Puis on aimait bien aussi les histoires maritimes, parce que ça renvoyait à quoi? Ben, ça renvoyait à l'île au trésor, Stevenson, les contrebandiers de Moonfleet.
Bien sûr.
Beaucoup de livres et de films qui nous ont fait rêver. Donc, il y a en effet cette correspondance entre le western, parce que c'est l'aventure. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu le goût dans les westerns plutôt pour les canailles, pour les méchants, parce que je trouve ça toujours plus emblématique, j'allais dire. Vous voyez, je fais par exemple allusion à un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Vera Cruz de Robert Aldrich avec Gary Cooper et Burt Lancaster. Et Burt Lancaster dedans était une canaille, mais une canaille sympathique. Et à la fin, on se doutait que il allait disparaître. Et en effet, il disparaît. Et pour en revenir au film de pirates, c'est un peu. J'aurais pu choisir par exemple les corsaires.
Oui.
Parce que la différence entre les deux, comme vous savez, c'est que les corsaires, ils agissent au nom du roi.
Au nom du roi.
Et... alors que les flibustiers, ils agissent à leur compte.
À leur compte.
Voilà.
Et alors, je me suis aussi, vous intéressez au hors-la-loi, François Cereza. Ce qui vous intéresse, c'est les réfractaires, c'est les hors-la-loi, les libertaires de tous bords. Alors, voici ce que dit un gourmet littéraire que vous connaissez bien. Je veux parler de Gilles Pudovsky. Voilà ce qu'il écrit au sujet de votre livre. Frédéric Dard nous contait jadis l'histoire de France selon San Antonio, dans un langage imagé et créatif, empruntant beaucoup à l'argot. François Cereza, que nous, lecteurs, connaissons bien, lui embraye le pas avec cette histoire de la flibuste évoquée à travers le personnage imaginaire de François de Bayreau, gentilhomme turbulent de l'île de Ré, devenu corsaire aux Antilles, dérivant de Port-Royal à l'île de la Tortue, avec une joyeuse bande de pieds-nickelés des mers. D'ailleurs, l'un des personnages du livre se nomme Forton, comme le créateur des pieds surnommés. Hein, il vous a bien croqué.
La seule chose, où il se trompe, c'est corsaire.
Voilà.
Parce que quand il part, évidemment, il y a un petit clin d'œil à l'île de Ré, parce que quand j'étais plus jeune, j'allais passer les vacances à l'île de Ré, et j'avais toujours été fasciné par le fort qui est à Saint-Martin-de-Ré, où on a enfermé beaucoup de gens, puisqu'il y a des gens qui étaient enfermés dans ce fort et qui étaient ensuite envoyés... ou à Cayenne, ou dans les colonies, et pour être vendu parfois comme esclave d'ailleurs. Donc, vous voyez, tout ça a un rapport. Alors, ça m'amusait de faire de ce personnage un enfant de l'île de Ré, pour mes propres souvenirs, moi, à l'île de Ré. Et aussi parce que, quand on est dans une île comme ça, on apprend à naviguer.
Bien sûr.
Donc, c'est un garçon, ce François de Maillereau, qui sait naviguer. Certes des petits bateaux, des petits voiliers, des bateaux de pêcheurs, mais donc il n'a qu'une envie, c'est les grands espaces, à cette époque, parce que je vous rappelle quand même que tout ça se passe sous Louis XIV, au moment où Louis XIV d'ailleurs va épouser Marie-Thérèse d'Autriche, qui est une Espagnole, on est en pleine époque de la flibuste. Pourquoi ? Parce qu'il y a les galions espagnols, vous savez, qui passent un petit peu dans les Caraïbes, qui transportent de l'or. Évidemment, ça attire la convoitise de
Bien
tous
sûr.
Les malandrins des mers.
La grande époque des flibustiers, c'est cette époque-là?
Oui, c'est cette époque, oui. Vous savez, il y a eu des flibustiers jusqu'au 19e siècle. C'est très amusant.
Ah oui?
Oui. Par exemple, il y a un type qu'on ne connaît pas bien. Il y a un film, pourtant, qui a été fait sur lui, avec Yul Brynner, d'ailleurs, qui s'appelle Jean Lafitte.
Ouais.
Et Jean Lafitte a été un pirate flibustier qui s'est allié avec les Américains pour bouter l'Anglais hors de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans. Et ça, je vous parle de ça, c'est au 19e siècle, c'est après l'épopée napoléonienne. D'ailleurs, Jean Lafitte se met avec un ancien officier de cavalerie, je crois, napoléonien.
Alors, on parle aussi de boucaniers. Qu'est-ce que c'est qu'un boucanier
Boucaniers, ouais. a priori, ce sont ceux qui boucanent la viande.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils font de la viande séchée.
Oui.
Le boucanier n'est pas forcément un pirate, hein. Alors que le flibustier, vous savez, c'est un mot en fait qui vient du hollandais. Alors, je ne pourrais pas vous dire le mot exact hollandais, c'est vrijbuiten, un nom comme ça, qui veut dire faiseur de butin. Donc, les flibustiers sont des faiseurs de butin, alors que les boucaniers, comme son nom l'indique, bah, ils travaillent la viande de cochon, parce que c'est beaucoup la viande de cochon, hein, qu'on sèche, etc., qu'ensuite on peut amener dans les cales, dans les bateaux. Donc voilà, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Sauf que dans le langage courant, le boucanier a été assimilé aussi un peu aux pirates, aux flibustiers, aux gentilshommes des mers, qui n'étaient pas toujours d'ailleurs des gentilshommes.
Alors on dit qu'ils avaient des lettres de marque. C'est quoi ces fameuses lettres de marque?
Non, quand on a des lettres de marque, c'est quand on travaille justement ou pour le gouverneur de l'île, en l'occurrence. C'était Tortuga, en espagnol, en fait, c'est l'île de la Tortue.
Oui, voilà.
Pour les Français, et la Jamaïque pour les Anglais.
Ok.
Et ces lettres de marque, en fait, c'est un peu bidon, hein. C'est-à-dire que le gouverneur s'en met plein les poches, et le flibustier s'en met plein les poches. C'est-à-dire qu'on pique à qui ? On pique, comme je vous disais tout à l'heure, au galion espagnol. Donc on redistribue ensuite. Mais je dis, le roi de France, là, dans ces cas-là, il ne voit rien venir. Raison pour laquelle. À la fin, d'ailleurs, du règne de Louis XIV, ils ont fini par sévir en disant on veut à tout prix interdire la flibuste, parce que, en fait, c'est de l'argent qui leur échappe. Quoi.
C'est ça, ouais. Alors, ils ont été expulsés par les Espagnols de la Tortue, enfin, ça, c'est ce qu'on lit, hein, sur les flibustiers, et ils se sont réfugiés donc, à Saint-Domingue, à Cuba, à la République centrale. Je me suis posé la question, François Cereza, en vous lisant, comment avez-vous écrit ce livre ? Parce que c'est pas facile. Vous nous parlez d'étymologie, beaucoup, et je voulais connaître un peu le lien entre argot et la flibuste. Parce que est-ce que c'est un lien qui va de soi ? Est-ce que, moi j'ai jamais lu un livre en argot sur les flibustiers, est-ce que c'est une première ?
Non, oui c'est peut-être une première, mais ce que je veux dire c'est que...
Est-ce que vous aviez ça dans la tête ? Est-ce que d'abord vous avez eu la forme avant le fond, enfin, qu'a été le déclic pour vous ?
Comme je vous disais tout à l'heure, la première chose, ça a été ces souvenirs d'enfance,
oui.
Donc ça m'amusait. Et puis j'avais beaucoup de livres hein, sur l'histoire de la flibuste, sur les corsaires d'ailleurs aussi, parce que mon beau-père était très féru de marine, et donc il avait une grosse bibliothèque là-dessus. Moi-même, j'avais lu des livres de gens parfois pas recommandables, comme Georges Blond, Georges Blonde, comme on dit, puisqu'il avait été un petit peu mêlé à la collaboration pendant les années noires de l'occupation, mais qui était par ailleurs un grand spécialiste de la mer et des navigateurs, ces gens-là. Et donc, j'avais lu déjà, je vous dis, tous ces livres-là. Alors, ça, c'est. Donc la première chose, et la deuxième chose, c'est que, pourquoi l'argot ? Mais parce que déjà les flibustiers employaient des termes qu'on ne comprendrait pas actuellement. Et pourquoi ça ? C'est parce que l'argot, c'est la langue qui vous permet de vous comprendre entre flibustiers, si je veux dire, pour ne pas être compris par les autorités. Ça revient à ce que disait Louis-Ferdinand Céline, à propos de l'argot, en disant l'argot, c'est le langage de la haine. Bon, c'est pas tout à fait le langage de la haine, mais c'est le langage, en tout cas, que l'on emploie pour pas être compris du patron, du daron. Hein. Donc, moi, il y avait ça. Et puis, en filigrane, quand même, j'ai eu un père qui a commencé à travailler à 13 ans comme ramoneur, et qui, lorsque j'étais plus jeune, m'a initié au métier manuel. Il me parlait, il avait des termes argotiques pour dire certaines choses. Donc
ça a été le mélange des...
Voilà, ça. Et puis, mon amitié ensuite avec Alphonse Boudard et des relations épistolaires et plus ou moins avec Frédéric Dard et Michel Audiard par le biais de jamais, jamais... En fait, je mentirais si je dis que j'ai connu Michel Audiard, mais j'ai connu des gens qui ont travaillé avec lui. Donc, j'aimais beaucoup cette langue qui était une langue à la fois populaire et avec des mots très particuliers qui, comme le rappelle François Vidocq, d'ailleurs, puisqu'il a fait un gros livre là-dessus, qui était quand même le chef de la sûreté, hein, au moment de l'ère napoléonienne, bah c'est toujours, ce sont des mots que l'on comprend, entre, que l'on utilise entre gens de la tierce. Hein, les gens de la tierce, c'est les gens du mi-temps, c'est les gens du... Voilà, encore une fois, pourquoi ? Pour ne pas être compris des autorités.
Alors voilà ce que vous aviez écrit d'ailleurs sur l'argot, je crois que c'est dans Les Princes de l'argot. Vous avez bobo, chic, il y a de l'argot dans l'herbe, et attention, on vous affranchit recta, parler ce langage cryptique de malfaiteur n'a rien de fastoche. L'argot bûche, c'est du taf, du lourd, une reconnaissance des métiers, de l'amour, de la pègre, le latin de la racaille, une langue parfois morte qui renaît sans cesse de ses cendres, une langue jamais amorphe, toujours polymorphe. Alors vous, qui êtes un fin gourmet aussi, je sais que vous aimez bien cuisiner, comment vous avez choisi ces termes d'argot ? Est-ce que vous aviez des... Comment vous avez travaillé ? Parce que finalement,
Vous avez vu ce passage que vous avez lu ? Vous avez tout compris ? Non ?
Oui, j'ai tout compris.
Ben voilà, c'est ça le plus important. Si on doit utiliser un argot que personne ne comprend, ce qui était le cas des argots de métier, hein, je parle au 19e siècle, ou même au début du 20e siècle, ou même l'argot de Albert Simonin, vous savez, « Touchez pas au Grisby » et tous ces trucs-là. Si on parle de ces argots-là complètement, vous ne comprendrez rien. Ce que j'ai bien aimé avec aussi bien Alphonse Boudard, Frédéric Dard et Michel Audiard, c'est que ce langage populaire et chatoyant est devenu compréhensible par tous, même si parfois, il y a des mots... Eh ben, à vous de vous débrouiller. Par exemple, quand je vous parlais de mon père tout à l'heure, il me disait, tiens, parce que quand je l'aidais à faire ou du plâtre ou je sais pas quoi, tu t'y prends comme feu sous cul, file-moi le darak. Bon, darak, c'est le marteau en argot. Là, vous voyez, tout ça, c'est un petit peu mélangé et a fait que, bah, pour moi, c'est, encore une fois, c'est une langue chatoyante.
Gouléante.
Bah, regardez les films de Michel Audiard, ils ont toujours un succès incroyable. Quand on voit les tontons flingueurs, tout le monde rigole, que ça soit droite ou gauche, peu importe. Les gens aiment ça, parce qu'il y a quelque chose de savoureux dans cette langue. Oui. C'est quelque chose qui se déguste. Donc moi, ça m'amusait de rendre hommage à ces gens, notamment évidemment Alphonse Boudard, parce que j'ai été très très proche, très ami avec Alphonse Boudard, de rendre hommage à ces gens qui ont été des orfèvres de la langue verte, comme on dit.
Alors vous dites d'ailleurs, on pense à ergo du grec ergon qui signifie travail, force, ça c'est pour l'étymologie, et vous êtes un voyageur dans l'étymologie, vous savez bien chercher,
et
vous parlez aussi monter sur ces ergos, voilà, parce que vous à chaque fois, non seulement vous trouvez des mots, mais vous aimez bien savoir d'où ils viennent, voilà, savoir, c'est un peu comme si vous alliez à la pêche et puis le poisson, il faut savoir d'où il vient, s'il remonte le fleuve ou pas, enfin...
Oui, l'étymologie, c'est très important, hein. C'est une chose qui maintenant a tendance un petit peu à disparaître. On emploie des mots, mais même dans les mots d'argot d'ailleurs, on oublie qu'il y a certains mots qui viennent de l'arabe, de l'autre de l'allemand, d'autres du russe, hein, bistrot, enfin bon... Il y a 36 000 exemples. Donc l'étymologie, c'est très important, c'est parce que c'est quelque chose qui vous permet de vous replacer par rapport à ce que vous êtes maintenant et à de ce qui était avant. On ne peut pas toujours nier à vouloir déstructurer l'histoire, parce que justement, ce qui était avant, ça explique un peu ce que nous sommes maintenant.
Ouais. Vous avez un côté historien, François Cereza, c'est-à-dire que vous aimez bien remonter le cours du temps, c'est pour ça sans doute que vous aimez l'argot. Vous écrivez dans un autre livre, hein, c'était le précédent, il n'y a pas à tortiller, dites-vous, l'argot est avant tout une langue qui se parle et qui s'écoute, un geste de chanson, un amour de tout ce qu'il y a de plus courtois, la liberté de parole et la discipline de l'écrit, un Balthazar au complet, fromage et dessert. Autre formule de vous d'ailleurs, toute langue populaire est constituée d'imperfections et de lacunes. Gardons les échalotes au chaud, ces douceurs, les tontons flingueurs ont enfanté des neveux flingués. Ils habillent le français, l'enchantent, l'envoûtent, le brossent, le sabrent, le trahissent, lui assurent de drôles de descendance, des turbulentes, des merveilleuses, des éternelles. Cet argot souvent infusé dans le texte, et ses amours et la maison de passe-passe du lecteur. Donc vous aimez bien surprendre le lecteur, on sent que vous aimez bien...
J'aime bien les mots, j'aime bien la langue. Alors, on peut peut-être considérer que parfois, il y en a un petit peu trop. On peut être un peu submergé par le flot.
Oui.
Mais l'argot est justement une langue qui ne supporte pas la mesure. C'est une langue de l'excès. Ou un langage, je ne sais pas si on doit dire une langue ou un langage. Disons un langage, c'est un langage de l'excès, l'argot. Donc, il faut jouer avec cet excès. Mais de façon, encore une fois, toujours à être compréhensible. Parce que je pense à quelques argoteurs du oui. 19e siècle, qui étaient d'ailleurs des chansonniers, ou même comme Auguste Le Breton, vous savez, les fameux oui. Rififi, tous ces trucs-là, ou encore celui dont je parlais tout à l'heure, qui est Albert Simonin. Bon, il y a certains passages, on comprend pas vraiment, on piche que dalle. Donc, on est obligé d'avoir un petit dictionnaire sous la main. Parce qu'il y a des mots très très techniques en argot. Hein. Encore une fois, ça se rapporte à un argot de métier. Vous avez des dictionnaires qui ont été faits, et ça c'est passionnant, des petits dictionnaires d'argot, des typographes par exemple. Vous avez l'argot des bouchers, hein, loucher même, vous avez ouais. tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que le simple verlan. Dont on abuse maintenant beaucoup, qui n'est pas formidable, parce que ce sont simplement, vous savez, on dit pas les juifs, on dit les feuges, on dit pas les flics, on dit les keufs, on dit, vous voyez.
Ouais, c'est simpliste, on va dire.
C'est plus les arabes, c'est les rabzas. Alors que autrefois, il y avait véritablement des mots et qu'il y avait une origine. Et ça, je vous le dis, on le voit aussi bien en lisant François Vidocq. Bon, tout le monde n'est pas susceptible de lire François Vidocq, ou même les traditions de François Villon, où là, on remonte quand même, comme vous le savez, au Moyen-Âge, pratiquement. Et où il y a un mot qui vient, par exemple, des amis, des francs compagnons de François Villon, qui est la maille. Vous voyez ? À cette époque-là, au Moyen-Âge, on disait la maille. Et c'était quoi la maille ? C'était des pièces de monnaie. Eh bien, c'est revenu maintenant. Moi, j'ai entendu mes fils dire « Est-ce que tu as de la maille ?» Voilà.
Donc, ce que vous aimez, c'est le côté intemporel aussi de l'argot, la rencontre entre l'ancien et le nouveau. Est-ce que vous avez beaucoup de dictionnaires d'argot chez vous ?
Oh, j'en ai une vingtaine à peu près.
Ah ouais, c'est... Est-ce que c'est difficile de les trouver ? Il faut faire les bouquinistes ?
Ouais, maintenant, il faut faire les bouquinistes... mais l'éditeur dont on parlait tout à l'heure, là, les éditions de Paris, Max Chalet, il a édité beaucoup de petits livres d'argot qui sont très...
Donc c'était l'éditeur tout trouvé pour vos flibustiers à la botte.
Ouais, qui est très intéressant, parce que c'est véritablement... Alors là, il y a des mots d'argot... il faut être initié, c'est-à-dire ouais. que si on n'est pas, je sais pas moi, lexicographe ou spécialiste du dictionnaire ou de l'étymologie, on comprend rien parce que c'est des mots d'ailleurs qui nous ont pu hésiter, qui ont disparu. Hein. Je pense que dans l'argot il y a aussi beaucoup une question de pas de mode mais de temps, vous voyez, c'est
de rythme aussi.
De temps. Quand je dis de temps, c'est lié aux dates et aux événements historiques que vous vivez. Peut-être qu'en 1830 et en 1848, où justement il y a eu cette police qui a été créée, initiée au début par Fouché et ensuite qui a été dirigée par François Vidocq, oui. ancien bagnard, oui. On a ces mots qui correspondent à la révolution de 1830, à la révolution de 1848, où il y a de la violence. De toute façon, quand on voit l'histoire de France, il n'y a que de la violence. Hein. C'est incroyable.
Ouais.
Donc, il y a tous ces mots de rebelles, de gens qui ne sont pas, qui sont contre le pouvoir de dire non, comme disait Albert Camus, hein,
ouais.
Et qui s'inventent une langue.
On peut dire que l'argot est une langue libertaire.
Ah, complètement, oui. Bah, c'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que ces pirates-là dont je parle, dont j'ai fait cette histoire, parce que c'est un roman quand même,
oui, c'est vrai.
Ce sont les premiers anarchistes.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est ni Dieu ni roi. C'est eux avant tout. Et quand même, il y a une certaine rigueur dans la façon dont on redistribue les gains, quand on a piqué, quand on a... On s'est lancé à l'abordage d'un bateau, d'un galion, je ne sais quoi. Et tout est très, très, très bien orchestré. C'est pas là, c'est pas du tout...
Il y a des codes.
C'est pas anarchiste, hein. C'est-à-dire ouais. que les matelots touchent tant, le capitaine touche tant, et puis le quartier maître, etc. etc. Tout ça est tout à fait répertorié. Hein. Donc, pour que justement, quand on veut qu'il y ait une certaine forme de désordre, il faut qu'il y ait de l'ordre avant. Et c'est pas le contraire. C'est pas le désordre qui donne naissance à l'ordre, c'est l'ordre qui donne naissance au désordre. Vous voyez, c'était les calculs en chimie d'entropie et d'enthalpie. L'entropie, c'est le calcul des ordres, l'enthalpie, c'est le calcul de l'ordre. Eh bien, les pirates, on croit toujours que ça part dans tous les sens et tout ça, mais tout est bien orchestré. Sauf, évidemment, certains abordages qui s'avèrent mauvais pour eux, parce que les autres sont armés jusqu'aux dents, et puis c'est eux qui vont leur faire la peau, parce qu'il y en a beaucoup qui ont terminé, inutile de vous le dire, pendus haut et court.
Ouais, il y en a beaucoup dans votre roman, François Cerzan. On va faire une pause musicale, et on va voir ce qui va nous arriver avec eux.
Alors, vous avez parlé de l'enfance au départ. Eh bien, un petit titre pour les enfants, Lila et les pirates par Nicolas Berton et Liz Cher-Hall, les pirates attaquent.
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 Ils sont sans pitié avec leurs épées. Les pirates attaquent. Rien ne leur échappe.
Rien ne leur échappe.
Ils vous tapent dessus. Ils vous mettent tout nu. Satané pirate.
Satané pirate.
Quand ils montent à bord.
Quand ils montent à bord.
C'est pour voler l'or.
C'est pour voler l'or.
Ils mettent tout en vrac. Le sang coule en flaque. Satané pirate.
Sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez les pirates attaquent. Et François Cerezin vous dit tout sur Pavillon Noir, les joyeuses et terribles aventures des derniers flibustiers français aux Antilles. Ça vient de paraître aux éditions de Paris. Voilà. François Cerezin, c'est vrai que je posais en tête cette question. Moi, je me suis d'abord posé la première question. C'est vrai qu'on se demande est-ce que c'était dans l'argot d'origine. Et après, on comprend en lisant votre roman que c'est un argot à votre sauce.
Bien sûr. Oui.
C'est,
oui, oui. C'est un argot aménagé, un argot moderne pour parler d'une histoire ancienne.
Ouais.
Encore qu'il y a certains mots qui sont des mots d'argot ancien, mais je vous dis, il faut que le tout soit compréhensible et en plus de ça, qu'il y ait une certaine rigolade qui en sorte.
Ben, on sent que vous êtes bien amusé aussi.
Voilà, les personnages, je veux dire, il faut qu'on s'amuse à la fois dans les répliques, dans les descriptions, dans les personnages. si on doit faire un truc, je veux dire, moi, pour moi, il n'était pas question de faire un remake de Capitaine Blood, le film formidable avec Errol Flynn de Michael Curtis, ou de L'Aigle des Mers, film de Michael Curtis encore avec Errol Flynn, ou de des contrebandiers de Moonfleet, ou de L'Île au Trésor de Stevenson. Je veux dire, ça a déjà été fait, on va pas faire la même chose. Tandis que là, de mélanger ça, de faire une histoire de pirate écrite en argot, bon, bah, c'est la petite originalité, je dirais.
Bah, on sent que vous avez pris plaisir à redoubler la langue, à vous abuser avec les mots. Alors, je veux qu'on présente les personnages, parce qu'il y en a beaucoup. Personnage principal, François de Bayreau. Bayreau laisse une fesse dans l'aventure, gagnant ainsi le sobriquet de capitaine Bordieu-Fiot. Il est quand même... Vous dites, François de Bayreau, gentilhomme de naissance, natif d'Ars-en-Ré, dans l'île du même nom, avait suivi l'école des mousses. Il avait appris jurons et langage ordurier, dont, d'opportunes occasions, les hommes de l'océan usaient parfois. Il avait ensuite fait ses humanités dans cette belle et bonne cité de La Rochelle, autrefois parasité par les papayos.
Parpaillots,
excusez-moi. Voilà, ça c'est, vous voyez qu'on est un peu miro, voilà ce qui arrive.
Les protestants.
Où il avait carabiné dans le médical. On veut dire par là que destiné à devenir rebecteur pour s'inscrire dans la lignée de son oncle Benjamin, le frère de son père, un sabreur à double trou de balle, c'est intéressant, et de Peter Blood, le cousin de sa mère, un forban à la rapière fulgurante, tous médecins et frères de la côte. Il avait chantiqué radical, décidé à lâcher du gros, bref, à s'enquiller dans les emmerdes. Alors, il s'enquille dans
chantiqué, les emmerdes. Voilà. Alors, chantiqué, voilà. C'est un mot d'argot, mais on comprend que c'est changé, quoi.
Ouais.
La chantique, c'est le changement, quoi.
Alors, présentez-vous votre personnage principal.
Ben, je vous l'ai dit. Lui, je voulais. C'est lui.
Ah, oui, ben, vous me l'avez dit en antenne. Il faut que les auditeurs, ils écoutent.
Ah, non, je vous l'ai dit. Que c'était natif de l'île de Ré, parce que justement, j'avais passé, moi, des vacances à l'île de Ré quand j'étais très, très jeune.
Mais il est inspiré d'un personnage aussi existant, c'est
non,
ça
non. Enfin, il est inspiré aussi, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire que j'ai lu un livre qui s'appelle « Les mémoires du capitaine Borgnefesse », non pas Borgnefion, et c'est cette histoire-là, sauf que moi j'ai greffé quand même beaucoup d'aventures que ne vit pas Borgnefesse, capitaine de la flibuste au XVIIe siècle.
Ventre en panne. Commandant du Pélican qui transporte des épaules...
Sans intérêt, lui.
Sans intérêt, on passe.
Sans intérêt, en fait, il est vite oxy, comme vous voyez. Par contre, le personnage qui va l'oxy, lui, est important et intéressant, parce que lui, il a existé, d'abord. Il s'appelle Lolonais, parce qu'il était originaire des Sables de l'One.
Ouais.
Lui, c'est un affreux.
Ouais, c'est un affreux. D'ailleurs, ils finissent tous des fois.
Ouais, lui, il finit mal. Il va être mangé par les Indiens. Mais ce qui est vrai en plus. Hein. Mais c'était un type d'une violence, d'une cruauté terrible. Il avait une particularité quand il avait. Je suis désolé pour les auditeurs, mais quand il avait des prisonniers et que les prisonniers ne voulaient pas répondre où est caché le trésor, parce que c'est toujours ça qui les motive, hein, les flibustiers, où sont cachés les trucs qu'il veut avoir et que l'autre ne répond pas, ou alors qu'il se montre un petit peu insolent, il ouvre le ventre. Il en sortait le foie et lui mettait dans la bouche.
Ah, quelle horreur, oui, d'accord, oui.
Ou alors, autre amusement, il lui ouvrait le ventre, il attachait les intestins à un fil et on déroulait les intestins comme ça. Donc, et tout ça, c'est des grandes rigolades. Hein. Mmh. C'est-à-dire que la souffrance d'autrui, c'est quelque chose qui n'existe pas. Quand on parle aujourd'hui de bienveillance, il n'y a pas de bienveillance. Il y a toujours, de toute façon, des paladins. Hein. Il y a toujours des gens qui se comportent mieux. On l'a vu au cinéma, et puis dans la réalité même. Il y a par exemple un capitaine qui s'appelait Fulbert, qui était un type qui se comportait très bien, mais il avait été ancien corsaire. Par exemple, les aristocrates qui sont devenus flibustiers étaient parfois d'affreux jojo, encore pire que... Encore pire que cet Olonais dont je viens de vous parler.
François Cereza, il y en a plein d'affreux jojo. Alors, pour revenir à Ventre en panne quand même, parce que je voudrais montrer aux auditeurs aussi l'art du portrait chez vous. Le capitaine Ventre en panne, surnommé Ventre en panne, il passait son temps à se hausser du col. L'imagerie populaire nous présente la ramenant gros et rougeau, volubile et court sur pattes, moitié pantagruel, moitié sociétaire de cette aimable société des francs-péteurs créée en 1743. Donc tout est dit dans une phrase, souvent le portrait. Hein.
Et puis ça m'amuse de mêler toujours la fiction avec des éléments qui sont des éléments vrais. La société des francs-péteurs.
Voilà, je me suis dit, c'est vrai.
Mais c'est vrai, c'est une chose qui existait. Et pas au 19e ou au 20e siècle, c'est au 17e siècle. Donc, comme quoi, c'était des sacrés zozos aussi. Quoi.
La petite Lola. Alors elle s'exprimait ainsi, la petite Lola, une petite blonde coiffée à la garçonne, caleçon de cochon échancré sur les miches, bien dessalé niveau sémantique. Présentez-nous la petite Lola alors.
La petite Lola, il faut dire que ce pauvre Maïro, donc, il va être sur le bateau de ce Hollandais dont vous parliez, qu'on surnommait Ventre en Panne. Il est pris donc par l'Hollandais. Et qu'est-ce qu'on fait à l'époque quand vous êtes pris sur un bateau? Ou vous avez assez d'argent pour graisser la patte du flibustier ou du pirate qui vous a pris, ou alors vous êtes vendu comme esclave.
C'est
ce qui arrive à ce pauvre François de Maillereau, tout petit aristocrate qu'il est, et il est vendu sur le marché de Basse-Terre, à un affreux coco, un affreux Jojo, qui est le père de la petite Lola, et qui va le faire travailler, lui faire suer le burnou, comme on dit, pendant 3-4 ans, avant que ras-le-bol il était venu pour devenir flibustier, et en fait il devient esclave dans une grande plantation, en plus avec un type très peu recommandable, et on le verra par la suite dans le roman. Il va s'échapper avec la petite Lola et une fille du coin qui s'appelle Pompon Bagna, et avec lesquelles ils vont vivre leurs premières aventures finalement de flibustier.
Et c'est vrai qu'à chaque fois, il n'arrête pas de se libérer d'une condition à l'autre, finalement, ce personnage. Tous vos personnages, ils sont...
Mais c'est aussi...
Est-ce que c'est un peu un conte philosophique?
C'est une référence aussi à l'époque, hein, c'est-à-dire que l'époque est quand même pas très facile. On croit que ça va être formidable, l'aventure au soleil, sous les tropiques et tout. Et en fait, c'est pas du tout ça. Si on n'est pas du bon côté du manche...
Remarquez, c'est un peu comme aujourd'hui.
On en prend plein la gueule, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lui, il en prend plein la gueule, parce que il va faire la connaissance d'un capitaine d'origine hollandaise qui s'appelle le capitaine Rock, qui a existé lui aussi, qui n'était pas non plus un enfant du paradis. Et ils vont avoir leur première prise dans ce coin donc des Caraïbes, pas loin de l'Amérique centrale. Et leur bateau va être pris dans une tempête, et là, il va être rejeté sur la mer, lui, François de Maïro, mon héros. Et par qui va-t-il être pris? Par les Espagnols, qui rebelotent, le vendent, à défaut de le tuer, parce qu'ils étaient
Il est increvable.
Ils étaient à deux doigts de le tuer, et ils le vendent à un autre Hollandais qui travaille dans la canne à sucre, et qui a une femme qui est charmante, évidemment, et dont... va devenir amoureux, notre héros.
Et pour Lola, le fil de roue, elle carbure à l'intuition style Descartes. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas lu Descartes. Rien du tout d'ailleurs. Inculte qu'elle était, sachant à peine lire et écrire, mais elle savait qu'il suffit de bien juger pour bien faire. Donc tout s'y fonctionne à l'intuition, à l'instinct.
À l'instinct.
L'instinct de survie.
Tous les gens ne sont pas censés... être comme Talmand des Réaux ou comme certains penseurs ou écrivains du XVIIe siècle qui vont donner naissance aux Lumières avec Rousseau et Voltaire. Il faut manger avant tout. Et à l'époque, c'est struggle for life. C'est-à-dire que si celui qui est à côté de vous, il a un peu plus que vous dans son assiette, vous lui piquez. Quitte à créer des gros, gros, gros problèmes.
Il y a des gros problèmes. Alors, il y a Flynn, on pense, bien sûr, Errol Flynn, hein, Robin des Bois des Mers Chaudes.
Le capitaine Flynn.
Évidemment,
c'est un petit clin d'œil.
On sent que vous aimez bien faire des clins d'œil à ceux que vous aimez.
Je ne pouvais pas ne pas le mettre.
Je retrouve le Errol Flynn, là, encore.
Il a bercé mon enfance et mon adolescence avec tous les films qu'il a fait, où il interprétait le héros, qu'il n'était pas toujours dans la vie, d'ailleurs, comme vous savez.
Ouais. Mais qui est quand même un personnage, un vrai personnage.
Oui, parce que...
Et l'audace
Il a ce côté, dans ses films, dont je vous parlais tout à l'heure, que ce soit Capitaine Blood, je ne parle pas évidemment de Robin des Bois, il rit toujours. C'est la bonne humeur, vous voyez. c'est pas, on n'est pas dans le cinéma aujourd'hui qui est un peu sombre, où on a toujours affaire à des affreux misanthropes qui ont ceci, qui râlent pour cela. Non, lui, c'est la bonne humeur en permanence. C'est les compagnons de Robin des Bois, c'est les compagnons du Capitaine Blood. Et pourtant, le Capitaine Blood, comme mon héros, est vendu comme esclave, où il va tomber sous la coupe, là aussi, d'un affreux. Donc, on pourrait dire que tous les livres se ressemblent un petit peu, mais parce que toutes ces histoires se ressemblent un petit peu, parce que ces gens qui vont tenter l'aventure comme ça, sous les tropiques, c'est parce qu'il y a la fortune qui est au bout. Et ils pensent qu'ils vont faire fortune, parce que tous ceux qui font ça, hein, de toute façon, vous savez bien, les bandits, que ce soit au 17e, 18e, 19e ou 20e, c'est évidemment pour se remplir les poches, hein, c'est pas...
Est-ce que vous parlez d'Errol Flynn, on pourrait dire qu'il a le sens de l'élan, est-ce que justement, ce que vous aimez aussi, vous remettez ça au goût du jour, c'est le... roman feuilleton, l'art du rebondissement, est-ce que vous aimez ça dans l'écriture, François Cérezin ?
Ben, j'aime ça dans l'écriture populaire.
Oui.
C'est, là aussi, je ne sais pas actuellement si c'est le cas. Moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, Alexandre Dumas. J'ai beaucoup aimé la série du Bossu, de Paul Féval. Enfin bon... Il y en a plein, Michel Zévaco avec Les Pardaillans, vous voyez tous ces livres qui ont été un peu considérés par les pseudo-littéraires comme des livres négligeables, ou même comme Dumas d'ailleurs, qui a toujours été considéré comme un auteur d'ailleurs il faut voir les jugements qu'il peut y avoir de certains auteurs à l'époque sur Dumas, notamment de Balzac, qui est très sévère avec Dumas, alors que lui, bon, il a écrit des trucs qui sont chiants comme la pluie pour certains. Donc, évidemment que c'est mon principal... Je dirais que le premier, d'ailleurs, qui m'a inspiré pour faire des livres, parce que je n'étais pas destiné à faire des livres, a priori, d'aventure, de cap et d'épée,
oui.
C'est Alexandre Dumas.
Ouais.
Moi, j'ai mon enfance, disons que l'adolescence, a été bercée, non pas avec L'Étranger de Camus, mais avec Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, Le Vicomte de Bragelonne, La Dame de Montsoreau, La Reine Margot, Les 45, etc. etc.
Ouais.
Parce que, encore une fois, il y a un côté, vous disiez tout à l'heure que j'aimais bien faire la cuisine, il y a un côté bonne humeur et bon plat.
Oui.
Vous voyez ? Ouais. Et chez les flibustiers, il y a aussi ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ripaille. Ouais. On rigole. Même si la vie est dure, il y a le rhum qui est là, on festoie sous les haubans. Donc,
Y a un côté rablaisien.
Oui, voilà, tout à fait.
Hein, on est aussi proche.
Tout ça, c'est le père de. Ça, c'est François Villon et Rabelais, hein, pour tout ce qui est ce langage. Je vous mets au défi de lire le quart livre, là, ou je ne sais plus quoi, de Rabelais.
Tiers livre.
Oui, et de comprendre quoi que ce soit, si ce n'est pas traduit, hein, c'est zobi.
Hein. Mmh. Y en a qui ont essayé. J'avais fait une émission une fois sur la version contemporaine de Rabelais, mais nous, ce n'est pas la même émission. Nous allons faire une pause musicale. Pour savoir où on va aborder cette fois-ci, vers quel rivage va-t-on voguer ?
Alors là, c'est Gérard Manset qui nous parle de l'équipage. C'est extrait de son disque À bord du Blossom, Gérard Manset.
Le capitaine interrogea un des anachorètes. Ah oui, les intrépides, lui fut-il répondu d'un ton presque moqueur. Puis il resta encore en parfaite harmonie, à converser avec les scribes, les découvrés instruits, qui conservaient certaines pratiques anciennes et une maturité tout à fait comparable à celle de nos ancêtres. Durant ces quelques temps, la main d'Amaïti Amaïta n'avait quitté la sienne. Elle le suivait, elle griffait, jouait comme un chat. Il se mangeait des yeux, se cherchait des caresses. Mais au matin suivant, il se souvint qu'il devrait à la nuit regarder la lune. Combien de dizaines de jours avaient passé ? Il lui était maintenant indispensable de se décider. L'alternative première lui intimait d'aller prévenir ses compagnons, qui dormaient dans les arbres, devaient guetter son retour. Ou bien la seconde. Fermer les yeux très fort et ne les rouvrir que quand Amaïti Amaïta le lui dirait. ou bien encore la présenter l'équipage. Puis il se dit que c'était troublant de se retrouver à ce point à la croisée de deux mondes. Dans son impossibilité de trouver le sommeil, il se demanda si réellement la solution était ici. La réponse fut que non.
C'est extrait d'une histoire vraie autour d'un capitaine de 1825. Voilà, c'est très court.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire. Vous avez une pause musicale qui n'en est peut-être pas une, mais nous, c'est pas. Voilà, c'est une pause au pays des pirates, des corsaires et des flibustiers avec Françoise Erésa qui vous dit tout sur Pavillon Noir, les joyeuses et terribles aventures des derniers flibustiers français aux Antilles. Ça vient de paraître aux éditions de Paris. Françoise Erésa, oui, c'est moi, je. Ce livre, ce roman, il a été écrit en plusieurs fois, parce que je connais votre goût pour la langue, pour le style.
Ben oui, vous avez raison, en plusieurs fois, oui. Parce que dans un premier temps, j'ai voulu l'écrire, ça a été, bon, avec toujours, il y avait toujours ce côté argotique, mais qui était un petit peu, j'allais dire, submergé par le fait de vouloir écrire comme on écrivait à l'époque. Ouais. À tel point que lorsque je me relisais, je ne me comprenais plus toujours.
Ça, c'est embêtant.
Donc, ouais. Ce qui fait que j'ai opté pour l'élimination directe de ces mots du XVIIe ou du XVIIIe siècle, enfin, en l'occurrence, du XVIIe siècle, pour parler un langage qui est le langage d'aujourd'hui, quoi, pratiquement.
Ouais. Et là, vous avez fait vraiment votre propre mixture, si je veux dire. Voilà, votre propre. Oui. Est-ce qu'à chaque fois, à chaque livre, mais vous aimez bien jongler sur les mots, vous aimez bien, vous avez votre style, quoi, on connaît immédiatement François Cérésa, vous aimez bien, comment dire, personnaliser la langue, faire en sorte qu'il y ait voilà, une sorte d'ADN bien particulier à vous, avec toutes vos lectures. Parce qu'il y a des références aussi. Hein. Il y a des références de lecture. Hein.
Ah, ben bien sûr, il y a des références de lecture parce que on est à cette époque où il y a quand même déjà beaucoup de. On fait malgré tout. Je veux dire, même si c'est un livre sur la Phlébus, c'est malgré tout. Il est signé, donc c'est de la littérature.
Oui, c'est de la littérature.
Je ne vais pas faire, et je ne dis pas ça de façon péjorative, du SAS sur les Caraïbes. Hein.
Voilà ce que
là,
vous...
ouais. Je m'amuse quand même aussi à citer. Voilà, certains poètes de l'époque, ceux de la Pléiade ou ceux un peu plus récents, ceux du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. Parce que c'est cette époque, donc ça renvoie, c'est une façon de dire hey, « Bonjour, vous voyez, hein, y a ces
ça
gens
existe,
qui, sont,
voilà.
qui se comportent véritablement comme d'affreux félons, et en même temps, il y a des gens qui déjà commencent à réfléchir, qui écrivent des dictionnaires philosophiques, qui écrivent des jolies poésies, ou des essais, donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, sans évidemment perdre le fil de l'histoire, parce que quand vous embringuez quelqu'un dans une histoire, si vous commencez à faire des digressions philosophiques ou littéraires à propos d'auteurs qu'on ne connaît pas forcément, vous désintéressez le lecteur et à ce moment-là, il laisse tomber.
Oui, mais bon, au détour d'une phrase, par exemple, voilà ce qu'on peut lire. Il n'a pas question de donner dans la facétie décrite par Théophile de Viau dans le fragment d'une histoire comique. Donc, au détour d'une phrase, je dis bien au détour d'une phrase.
Oui, bien sûr.
On peut aller en bibliothèque, un jeune lecteur, par exemple, qui ne connaît pas.
Mais enfin, Théophile de Viau, personne ne le connaît. Hein. Donc, c'est
voilà.
Simplement.
Donner un avant-goût.
Voilà, c'est un petit truc, parce que ce monsieur écrivait à cette époque. Et d'ailleurs, je crois que l'extrait que je donne est assez court. Hein. Bon.
Bien sûr. Alors, d'autres personnages pissent partout, ça aussi. Il y a aussi Triple Patte, un unijambiste blasé, Triple Patte, et un colosse noir bombardé, chou blanc. Ah non, ça vous êtes bien abusé. Est-ce que vous avez été tenté à la fin de faire mettre un index pour qu'on s'y retrouve ou
non.
Pas
non. Non. Si vous y retrouvez pas, tant pis pour vous.
Il y a Pomplemousse, Triple Patte, Fond l'oreille, Pédonone aussi. Voilà, c'est des surnoms que vous.
Mais il y a beaucoup de surnoms qui étaient donnés. Moi, je les donne à mes personnages, mais quand on lit. Les livres qui ont été faits par vous avez un chirurgien de marine qui a beaucoup navigué avec les pirates, il s'appelle Exmelin, qui est assez connu, et donc lui il parle des chefs pirates qu'il a côtoyés et dont certains évidemment ont des surnoms, mais de toute façon ce surnom c'est Enfin, je veux dire, c'est comme au XXe siècle. Hein. Vous, dès que vous vous retrouvez dans une espèce de ou à l'armée ou un truc ça, on donne des surnoms à tout le monde. On donne
bien
des
sûr.
Surnoms
ouais.
à l'adjudant qui vous fait chier. On donne des surnoms au lieutenant qu'on trouve un peu bizarre, au colon et puis à tous les copains et les camarades. Eh bien, là, c'est la même chose. Alors, en général, il faut savoir que ces surnoms, c'est pourquoi on les surnomme comme ça, c'est parce que c'est lié à des caractéristiques qu'ils ont.
Bien sûr, bien sûr.
Pomplemousse, par exemple, on a tout de suite compris que c'est un monsieur qui était attiré justement par les petits mousses. Parce que c'était une chose très courante à l'époque. Mmh. Ces gens-là qui étaient sur mer sans arrêt, ils n'avaient pas beaucoup de nanas. Donc, on pratiquait la fraternité, si je puis dire. Et ce sont d'ailleurs les gouverneurs des îles qui ont fait venir des filles, entre guillemets, qui d'ailleurs partaient de Brest, en général, qui étaient des filles de joie, pour essayer de repeupler un petit peu l'île de la Tortue, parce que ça se dépeuplait pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, et que les seuls aristocrates qui étaient là, qui étaient tous complètement des fins de race, un peu à la masse, ils étaient entre eux, comme toujours, souvent, les aristocrates et les nobles sont toujours entre eux. On a bien vu ce que ça a donné dans l'aristocratie et la noblesse française avec les Valois et les Bourbons. Hein. Donc, ils font venir du sang neuf, quoi.
Voilà. Ouais. Faut dire qu'il y a tellement d'aventures aussi. C'est très vivant, c'est un bouillon de culture, hein, le monde de la flibuste, François Cérezin.
Ben oui, d'autant qu'en plus, il y a des mélanges incroyables. C'est-à-dire que, vous parlez des personnages triple patte, là.
Ouais.
En fait, c'est parce qu'il a une canne, parce qu'il a une jambe qui a été arrachée quand il est tombé dans l'eau, écrasé par une galère qui était là. Mais c'est aussi un petit clin d'œil à de la bande dessinée, là, cette fois-ci, que j'avais, moi, beaucoup aimé, et qui était Les Aventures de Barbe Rouge.
Ah oui,
avec,
ouais.
Vous avez dû connaître ça. C'est,
un petit peu.
C'est Victor Hubinon qui
ouais.
dessinait, et Charlier qui faisait les textes.
D'accord.
Et donc, dedans, il y avait Eric. Qui avait été on apprenait qu'en fait c'était un petit aristocrate parce qu'il était nettement moins, j'allais dire terrible et cruel que son père d'adoption qui était Barbe Rouge, et Barbe Rouge avait donné à ce Eric pour le former, je dirais, et en même temps pour le protéger, deux sortes de gardes du corps, dont un était triple patte, et là j'ai repris le nom, hein,
ouais.
C'est vrai, et l'autre, Baba. Et Baba était un noir colossal, costaud et tout ça, que moi j'appelle Joue Blanc, à la fois par dérision et en même temps, parce que c'était l'époque, encore une fois, où on donnait des surnoms et des patronymes comme ça incroyables aux gens. Mais donc, ça, c'est un petit clin d'œil en effet à ce qui a été la bande dessinée. Ça apparaissait d'ailleurs dans Pilote.
La belle époque.
Ouais, le Barbe Rouge.
Quelque chose laissait.
C'était d'ailleurs le même. Je parle de Charlier. Charlier, c'est celui qui faisait aussi les textes de Lieutenant Blueberry. Je ne sais pas si ces aventures vous disent quelque chose. Oh. Les aventures du Lieutenant Blueberry, dont on a fait un film d'ailleurs plus tard. Et Blueberry, le dessin qui était fait. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Jean-Paul Belmondo.
Ah oui. Ça vous dirait que ça soit transformé en roman graphique, votre roman?
Bah oui, pourquoi pas, oui, ce serait amusant.
Alors, pour donner d'autres idées aux auditeurs de votre style, quelque chose laissait subodorer que Ventre en Panne risquait de perdre ses billes. Il roulait trop. On n'épiloguera pas sur ses mouvances baroques, ni sur son aptitude à relancer la saucisse. Mais à la veille du terminus, il advint un événement qui inclinait à penser que malgré l'immensité des océans, les vagues, comme les murs, ont parfois des oreilles. Donc vous vous abusez avec les éléments, vous vous abusez avec l'océan, la mer,
avec
le bateau.
Et les expressions.
Et les expressions.
Ouais, ouais.
Et puis il y a l'omniprésence, j'ai trouvé de la mort, elle est partout. Allez partout. Bah, regardez, Bordefion, toujours lui, marchait sur la plage depuis presque un mois. Il pensait à Pissepartout, à Lolodé, à d'autres compagnons tués lors de la prise de Santa Maria. Il s'interrogeait, où était-il à présent? Gras ou maigre? Athée ou croyant? Malade ou bien portant, ça se valait. Au bout de la course, c'était toujours la mort qui vous enlève, vous réduit en petit ados, en chair pourrie, en cendre. Au tamis, ça se mélange et s'évapore. Rien que débris inconsistants, avec ou sans Dieu. Et en marchant, il se disait que lui, François de Bayreau, alias Borgnefion, le flibustier en devenir, il serait un jour à la même enseigne, poussière. Semoule indistincte, réconcilié avec le néant, compagnon d'âme de tous les décédés, tout ça pourquoi ? Voilà. Donc il y a un peu de mélancolie aussi qu'on retrouve.
Ça c'est un clin d'œil, ça n'a pas changé, hein, qu'on soit au 17e, 18e ou aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va devenir ?
Bien sûr.
On meurt tous et puis, ça va être des petits tas de poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Hein. Bon, c'est
voilà. Voilà, faut dire qu'ils ont des parenthèses de vie très courtes. Hein.
Oui, parce que en général, évidemment, ils vivent pas comme nous, comme on dit en argot les dins huppés. Les dins huppés en argot, c'est les bourgeois ou les culs de plomb. En général, hein, 25, 30 ans, 35 ans, ils passent l'arme à gauche. Hein.
Ouais. Vous dites, la flibuste obéit à une mentalité, il faut savoir fermer sa gueule, payer ce qu'il faut à qui il faut, quand il le faut. Tout est d'une férocité primitive, aucune mentalité, et c'est la mort. Voilà, c'est vraiment le... On va faire une petite pause musicale peut-être, puisque là je vois que ça s'agite dans la régie, parce que ça nous... Il y aura peut-être quelque chose là.
Alors là, ça sera la Compagnie Jolimôme. Parole de mutin, les pirates.
Les barbares ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Dans l'histoire, souvent, il y a des méchants qui font peur aux gentils, tout propres et bien polis. Écoutez, c'est épique, didactico-ludique.
Les méchants ripaillaient la nuit sous les étoiles, cap sur la liberté en hissant la grand voile. Les gentils, eux, donnaient dans la traite des noirs et nous enrichissaient et faisaient notre gloire.
Du large des Antilles à l'ouest de l'Afrique et de la mer de Chine jusqu'à Madagascar, écumant les comptoirs, traquant les négriers, hissant le drapeau noir, toujours prêt à chanter.
Vivons peu, mais soyons heureux, car vivre vieux c'est bien, mais vivre bien c'est mieux. Parole de mutin.
D'après ce que l'on sait, ce n'était pas les saints. Les conteurs les disaient, voleurs et assassins. Les marchands les craignaient, fuyant à toute hâte, dès qu'ils apercevaient les vaisseaux des pirates.
Ne les confondez pas avec les corsaires, à la solde des rois, ces bandits mercenaires.
Eux étaient sans patrie, sans maître, sans frontières. C'étaient des insoumis, des damnés de la mer.
Vivons peu, mais soyons heureux, car vivre vieux c'est bien, mais vivre bien c'est mieux. Parole de mutin.
D'après ce que l'on sait, ces travailleurs des mers, qu'ils soient mousses ou gabiers, subissaient un enfer.
Devenus des mutins, ils ont brisé leurs chaînes, pris les bateaux en main, chassé les capitaines.
Tout est à nous,
rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé.
Réjouissons-nous, les partageux,
c'est l'heure de se mutiner. Ces gars ne craignaient rien pour prouver leur courage, c'est le sabre à la main, paré à l'abordage,
qu'ils éclataient de rire au nez de la royale, d'un rire à faire pâlir de peur un amiral.
Vivons peu, mais soyons heureux, car vivre vieux c'est bien, mais vivre bien c'est mieux. Parole de mutin.
D'après ce que l'on sait, c'est le plus étonnant, les noirs qu'ils libéraient venaient grossir leur rang.
Le chef était choisi au sein de l'équipage, irrévocable aussi, comme le veut l'usage.
L'égalité régnait pour la peine et le pain, ensemble ils décidaient du partage du butin.
Justice nécessaire, condition de survie, qui fait les hommes frères, prêts à risquer leur vie.
Vivons peu, mais soyons heureux, car vivons.
juste leur drapeau noir.
Aujourd'hui, on le sait, les pros de l'esclavage, qu'ils aient été français, portugais, espagnols, anglais, hollandais, c'était eux les sauvages.
Mais les temps ont changé, fini la piraterie, sauf pour les pétroliers qui croisent en Somalie.
Vivons peu, mais soyons heureux, car vivre mieux c'est bien. Mais vivre bien c'est bien. Parole de mutin.
Tout est à nous.
Rien n'est à eux, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé.
Réjouissons-nous les partages.
C'est l'heure de se mutiner.
Tout est à nous.
Et oui, c'est l'heure de se mutiner avec Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui avec François Cereza pour Pavillon Noir, les joyeuses et terribles aventures des derniers flibustiers français aux Antilles. Ça vient de paraître aux éditions de Paris. François Cereza, d'ailleurs, vous citez, je crois, une chanson des pirates dans votre roman. Aujourd'hui vivant, demain mort, que nous importe d'amasser et de ménager, nous ne comptons que sur le jour que nous avons vécu et jamais sur celui que nous allons à vivre. Nous avons à vivre.
Ça, c'est authentique, ça.
Voilà. Ouais, voilà. C'est pour ça que je cite, parce que.
Oui, oui, oui.
Ça, on apprend plein de choses.
Ouais. On chantait ça sous le pavillon, le Jolly Roger. Le Jolly Roger étant le pavillon noir, c'est ce qui a donné un petit peu le nom au titre, hein, on n'en a pas parlé tout à l'heure.
Oui, c'est
mais
ça.
C'est en fait une tête de mort avec deux tibias croisés en dessous. Quoi. Ce que l'on voit d'ailleurs dans les films actuellement. Tout à l'heure, je vous parlais en antenne de ce film qui est un peu débile, Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. Et donc il y a ce drapeau des pirates, évidemment, c'est assez emblématique. Donc imaginez un petit peu les galions, les espagnols ou même d'ailleurs anglais et français, lorsqu'ils voyaient ces bateaux qui allaient très vite en plus, hein, qui fonçaient vers eux et en voyant le pavillon, c'était la terreur évidemment sur le pont.
Ouais. C'est très visuel aussi, hein, votre roman. On sent qu'il y a des couleurs. Le visuel de couverture est très beau. Mmh. Je crois que c'est vous qui l'avez.
Oui, c'est Barbe Noire.
Ouais, c'est très très chouette. Et puis on retrouve
Blackbird, qui était un anglais. Hein, c'est ouais. Pas.
Et puis on retrouve aussi votre sens. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. On retrouve votre goût pour les jeux de mots, pour inverser les formules.
Là, ce n'est pas les jeux de mots, c'est une formule.
Voilà, j'ai bien fait poser la question.
Oui, c'est une formule de l'ancien conseiller Ndéron. Le nom m'échappe, là, mais vous voyez un petit peu, ça remonte très très loin, ça.
Ah, oui, je voyais que c'était vous.
Le philosophe, non, c'est pour moi.
C'est Sénèque.
C'est Sénèque, bravo.
Ah, voilà, c'est Sénèque.
Elle est très forte, elle est très très forte.
Non, pas du tout.
Ah, si, elle est très forte. Si,
non. Mais c'est vrai qu'on retrouve.
Elle est formidable, cette formule,
ouais,
non? Vous vous rendez compte,
aussi.
Ça
ouais, elle n'a pas vieilli.
Ça a été dit à l'époque de Néron. C'est quand même incroyable. Quoi.
Mais
ce Sénèque, il a, de toute façon, il a un lot de formules formidables.
Hein, je recommande aux jeunes auditeurs de lire Sénèque, ouais. Tout à fait. Mais quels sont après, alors? Bon, on ne va pas révéler la fin, parce que ça ne sert à rien. Je trouve que c'est un roman... Faut naviguer avec. Faut s'embarquer.
Bravo.
Faut s'embarquer.
Il faut le prendre d'abordage.
Oui, exactement. Faut mettre le cap.
Ça me rappelle d'ailleurs aussi un film là, que je vais citer, parce que au moment où le livre est sorti, sur Arte est passé un film de George Sherman des années 50, encore avec Errol Flynn et Maureen O'Hara et Anthony Quinn, qui s'appelle À l'abordage,
et
qui était un film sur les pirates aussi.
Donc j'irai que faut s'embarquer dans votre roman, François Cereza, dans votre style qui est... vous êtes un styliste, hein, mais c'est un style assez fleuve aussi. On se laisse emporter par le courant des mots qui sont très maîtrisés. Mais il faut se laisser embarquer. Donc je ne dirai rien de l'histoire et ça ne sert à rien. Parce que moi, je suis plus sensible à la forme qu'on fait et ça me joue des tours, d'ailleurs.
Non, vous avez raison. Hein, parce que, bon, il faut qu'il y ait une histoire toujours dans un livre. Moi, je me suis toujours efforcé, je peux vous dire, dans les romans que... Et Dieu sait que j'ai touché à tous les gens. Tout à l'heure, je vous parlais de, du genre de KPDP.
Ouais.
Bon, j'ai pas vraiment fait film de livre de KPDP, mais j'ai quand même fait... déjà, j'avais fait quand même La Suite des Misérables, qui était un sacré livre.
Oui, c'était une sacrée épopée.
Avec
aussi.
Deux volumes de 500 pages chacun. Bon, mais j'ai fait aussi beaucoup de choses sur la Révolution et sur la guerre de Vendée, parce que ce sont des événements qui ont été quand même très déterminants pour la suite de la Révolution, et notamment l'avènement, évidemment, de Bonaparte. Et puis parce que c'est une époque où tout bouge à une vitesse incroyable.
Ah ben ça, vous aimez quand ça bouge.
Et là, on parle des flibustiers, mais bon, sur la Révolution française, hein, vous avez vu tous ces gars qui se sont succédés, que ce soit les Girondins, Hébert et les Hébertistes, donc les enragés, comme on les appelait, Danton et les modérés, Robespierre et donc ces Jacobins, ils passent tous à la casserole.
Ouais.
Et c'est des gens qui ont maximum 37-38 ans.
Mm.
Je veux dire, Saint-Just, il va sur l'abbaye de Mont-à-Regret, comme on appelait ça en argot aussi, la guillotine, la Sainte Guillotine, il a 28-29 ans, quoi. Ouais. C'est,
hein? Ah oui, mais là, c'est d'autres zones de turbulence.
Ouais, ouais.
Je me suis posé la question, bon, c'est vrai que c'est un livre aussi où il y a des mots anciens, il y a une recherche. Quels sont un peu, vous en avez un peu parlé au début d'émission, François Cereza, vos écrivains flibustiers préférés? Est-ce que c'est Louis Nucera, Alphonse Boudard, Michel Audiard, Frédéric Dard? Quels sont ceux qui... Parce qu'il y a des écrivains comme ça, qui sont des francs-tireurs de la langue.
Écrite. Oui, mais c'est un hommage justement à ceux-là, ouais. Que vous venez de citer, hein, qui sont...
Boris Druon, que vous avez beaucoup aimé.
Oui, que j'ai bien...
Qui est un sacré tempérament.
Que j'ai très bien connu. Ben, voilà, comme vous dites, c'est des tempéraments. C'est des gens qui ont plus que du caractère. Un tempérament, c'est vraiment quelque chose dans lequel on ne peut pas revenir. Et ces écrivains, bon, on pourrait citer aussi même Macorlan aussi. Hein,
oui,
parce que Macorlan
méconnu,
aussi,
mal connu.
Mal connu, écrivain populaire qu'aimait beaucoup Pierre Berger, puisqu'on parlait de Pierre Berger. Je crois qu'il y a même un prix, Macorlan, qui existe. Écrivain populaire.
Bon, de Paris.
Qui est capable aussi bien de faire... je crois, Quai des Brumes, hein, que Picardie, qui est un roman picaresque, justement, sur un régiment qui existait sous Louis XV, qui s'appelait le régiment de Picardie. Et aussi, je ne me souviens plus du titre de ce livre sur les flibustiers, sur les pirates, signé aussi de Macorlan, qui était un livre très bien et très bien écrit, en plus.
Ouais, ben Corlan mérite d'être relu. Quel est un peu votre type d'argot préféré? Vous parlez d'ailleurs le cadu, le faria, le faillot, le jargon, le javanais, le jobelin, ça c'est, je vous cite. Hein.
Oui.
Le loup-béchet d'argot des bouchers de Paris, le mauvais argot des... Il y avait même un argot des sonneurs de cloche. Le possard, le robadi, le terrachu, le verlan. Bon, le verlan, vous ne l'aimez pas tellement, non. Parce que c'est trop facile.
Oui, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que ce n'est pas ce qui est le plus... littéraire, si on doit employer ce mot-là,
ouais,
à propos de l'argot.
Ouais.
Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le panaché de tout ça. Parce qu'encore une fois, si on ne parle que d'un argot bien spécifique, à quoi ça sert? On ne comprend rien. Donc c'est amusant, encore une fois, pour les lexicographes ou pour les spécialistes de la langue et de la grammaire, de consulter ces livres qui ont été faits. Je pense notamment... à l'argot des typographes, mais ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Hein. Vous allez lire ça, vous trouvez ça intéressant, amusant, chatoyant, tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas écrire un livre en employant l'argot des typographes ou l'argot des voituriers ou l'argot des fumistes. Hein, parce qu'il y a tous les argots, c'est ça, c'est quelque chose qui... Tous les gens s'inventent une langue. On s'invente une langue. Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, on s'inventait. Enfin, moi, je sais qu'avec mes copains, on s'était inventé une langue pour ne pas être compris par les autres. C'est toujours la même chose. Hein.
Mais est-ce qu'actuellement, l'argot n'était pas en chute libre? Enfin,
est-ce qu'actuellement, il n'est pas en chute libre?
Ouais.
Ah bah oui, il est en chute libre, puisque je vous dis, ça se limite maintenant. D'abord... on prend exemple sur les banlieues où il n'y a pas véritablement de création littéraire, c'est beaucoup basé, encore une fois, je vous dis, sur le verlan.
Ouais.
Et, ou sur des mots dérivés de l'arabe. Hein. En gros, c'est ça.
Est-ce que vous vous souvenez, alors là, de votre premier émerveillement littéraire, là je change complètement de sujet, les premières lectures que vous avez eues, vous parliez tout à l'heure d'Alexandre Dumas quand vous étiez...
C'était voilà, c'est ça, oui. Ouais. C'est ça.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Quel est l'écrivain ?
Si, j'avais bien aimé aussi Robinson Crusoe. Là aussi, oui. Il y a un côté un petit peu... C'est toujours lié à l'aventure. Daniel Defoe, qui lui-même, d'ailleurs, a connu, à son époque, certains flibustiers. Hein.
Et voilà.
Ah oui, oui.
Est-ce que la première phrase a une importance pour vous, François Cereza ? Parce que là, on est dans... Attendez, votre première phrase, là... Tout commence par les yeux.
Oui, oui.
François de Maillerault le savait, la mer c'est la terre, un regard d'enfance, des songes d'aventure. Voilà, on est déjà dans le bain si j'allais
tout
dire.
Tout commence par les yeux, ouais. Oui, bah, les yeux, bah oui, parce qu'on regarde, hein. On en a parlé, vous savez bien.
Avec les trois petits points, ces trois petits points, ça rythme un peu le...
C'était encore une fois pour le...
Parce que ça c'est... Dans
pour l'hommage, l'hommage à Alphonse Boudard, dans ouais. Les précédents je n'utilise pas les petits points, non. Les petits points évidemment c'est lié à Céline, la dentelière et tous ces trucs-là. Bon, j'ai voulu le faire comme ça. Mais vous savez, c'est amusant de faire des livres un petit peu différents plutôt que de faire des trucs, j'allais dire, uniformes, d'une certaine façon. Moi, j'ai fait plein de livres différents, parce qu'on est différent sur plein de choses. Quand, si jamais j'écris sur la disparition de mes parents, je ne vais pas, évidemment, écrire un livre comme celui-là. Vous voyez ?
Est-ce que vous aimez bien varier les styles d'écriture ? C'est-à-dire que là, je sais que vous travaillez sur un dictionnaire actuellement. Oui. Hein. Est-ce que vous aimez bien passer du roman ?
On écrit toujours de la même façon.
Oui.
Je veux dire, au niveau du style.
Ouais, ouais.
Hein, on reconnaît. Bon, moi, ça me fait plaisir, mais par exemple, dans mon petit journal qui est le service littéraire, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on reconnaît quand c'est François Cereza qui a fait cet article. » Mais parce que vous avez un style. Et moi, j'ai un style et je me le suis forgé, ce style, quand même, au bout de toutes ces années. Et avec les livres, c'est la même chose. Alors, il peut y avoir des éléments qui viennent se greffer, qui sont différents, c'est-à-dire bah, là, l'aventure, l'époque, les conditions... vous voyez, il y a 36 choses qui peuvent arriver. Mais on est toujours, je pense, quand on est écrivain et qu'on est attaché au style, tributaire de son style. Qu'on écrive sur le 17e, 18e ou 20e siècle, on doit reconnaître un écrivain parce que le style, c'est ça. C'est le style qui fait l'écrivain, c'est le style qui fait l'homme.
Et pour vous relire, là, ça a dû être, je vous le disais hors antenne, il y a des mots qui, la même, l'orthographe a changé. Enfin, quand même, ça nécessite un regard averti. Là, il y a eu combien de relectures pour ce roman ?
De ma part ?
Oui.
4 ou 5 ?
Oui.
Et minimum, hein ?
Minimum, hein ?
Ouais.
Plus les relectures.
Mais oui, mais parce que j'ai changé, j'ai chantiqué. vous voyez, c'est... Il y a un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc un petit peu véritablement 17e siècle, avec le langage de l'époque. Alors bon, à l'époque, quand on parle des requins, on emploie un mot qui est un mot espagnol, je vous l'ai dit tout à l'heure,
ouais.
C'est les tiburons.
Ouais.
Mais quand on lit ça, si vous n'êtes pas averti, c'est quoi les tiburons ? Bon, ça vient de l'espagnol, mais on n'est pas censé le savoir. Mais les flibustiers, les corsaires, tous les gens de la mer, à l'époque, quand ils parlent des requins, parce qu'évidemment, il faut faire gaffe, parce qu'ils ne savent pas nager, ils tombent à l'eau, ils sont bouffés par les requins, ils appellent ça les tiburons.
Et l'alternance aussi de dialogue, vous aimez bien les dialogues, hein. Dialogue et description, vos descriptions sont... Ben, voilà.
S'il n'y a pas de dialogue, c'est une littérature morte, enfin, moi, me semble-t-il, hein. Surtout pour ce genre de livre. Il peut ne pas y avoir de dialogue, ou le dialogue, ça vient étayer un sentiment fort que vous avez dans un livre concernant un ami disparu, des parents disparus, un amour fini, ou ces choses-là. Là, c'est différent. Là c'est le dialogue qui fait l'action, c'est l'action qui fait le dialogue.
Ah ben ça, je le retrouve, là. Est-ce qu'il y a déjà des réactions par rapport à ce roman ? Est-ce qu'il y a déjà des lecteurs qui vous ont...
Oui, 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 bien sûr. Oui, oui.
Qui vous ont écrit, qui vous ont...
Qui m'ont écrit, non, mais bon... j'ai eu, parce que je, quand même, je suis passé à la télévision pour ça.
Mais est-ce que...
Y a, bah, tout à l'heure, vous citiez Gilles Puldowski. J'ai eu un truc dans Causeur, c'est Thomas Morales d'ailleurs, ouais. qui
Mais est-ce que Il y a aussi, alors on n'a pas parlé, moi je vous ai parlé gastronomie tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des, voilà, il y a pas mal d'ingrédients dans votre roman, coloré, il y a la présence.
Et puis il y a des parties gastronomiques.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et qui, une fois de plus, sont liées à ce que c'était à l'époque.
Oui.
C'est-à-dire qu'on mange des trucs quand même assez indigestes.
Eh bien, dites-nous.
C'est des espèces de bouillies où ils
mettent 36 000 trucs. Ben oui, justement, nos auditeurs, ils veulent connaître.
Ils mettent 36 000 trucs dedans et c'est très épicé.
Ouais.
Et pourquoi c'est très épicé? Parce que d'abord, ça chauffe les sangs, bien sûr. Mais aussi parce que ça supprime les trucs qui peuvent être un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, passés, pour ne pas dire pourris.
Ouais. Est-ce que vous êtes inspiré? Je sais que...
Mais bon, on cuisine déjà à l'époque. Il y a quand même des porcs farcis, il y a quand même des cochons, il y a quand même les crabes farcis, hein, cette espèce de spécialité qui existe toujours dans les Antilles. Mais ce sont des choses qui sont souvent très relevées, parce qu'il y a beaucoup d'épices dedans.
Et puis au sens aussi, il y a un peu, j'allais dire, la géographie du navire, du bateau. Ce qui se passe en dessous, ça vous le vivez complètement. Est-ce que vous êtes inspiré aussi de tableaux
Je me suis inspiré de descriptions aussi sur la tempête, puisqu'il y a, il y a tout un passage sur la tempête, il y a tout un passage sur quand on met le pied en Amérique du Sud, il y a tout un passage sur Panama. On parle beaucoup de Panama aujourd'hui dans l'actualité. Panama est un truc, et ça a été une très grosse opération qui a été menée par le grand pirate anglais Morgan, qui ensuite a été anobli. Pirate complètement, parce qu'on va piller Panama, Morgan s'en met plein les poches, et là, lui, il distribue pas trop, et il se tire ensuite, et il est anobli par le roi.
Il y a ceux qui ont du pot qui s'en mettent plein les poches, et ceux qui s'en mettent pas. Les fins, quand est-ce que cette belle époque, ça a duré jusqu'au 19e siècle? Moi, je suis un peu étonné.
Non, je vous dis 19e siècle, parce que tout à l'heure, je vous parlais de Jean Lafitte, qui était un flibustier relativement connu, mais qui était un seigneur, lui, hein. C'était pas un affreux comme ceux dont on parle au XVIIe, qui sont sans foi ni loi, il faut bien le dire. Mais disons que la grande époque, vous savez, ensuite, il y a eu les barbaresques, il y a eu les Chinois, il y a eu... et puis au XVe siècle, rappelez-vous cette série très kitsch de télévision, de cinéma, pardon, avec Angélique.
Ah oui, avec Robert Hossein.
Voilà, avec Robert Hossein. Bon, là, on voit que les pirates sont en Méditerranée, hein, on ne va pas forcément sur les Antilles. Donc ça change un petit peu, et que c'est souvent des barbaresques. Il y a eu des grands pirates comme Barberousse, par exemple. Hein.
Ouais, ouais.
C'est une histoire qui n'en finit pas. Et puis bon, comme disait la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, il y a aussi des pirates actuellement en mer de Chine où vous avez intérêt à faire attention quand vous allez là-bas, parce que vous risquez de tomber sur des types qui sont sans foi ni loi, ils ont faim. Donc quand on a faim, tout est possible et légitime.
Ouais, donc l'histoire des pirates et des corsaires, les corsaires, ça c'est fini, mais les pirates, en tous les cas, ça n'en finira.
Moi, ce qui me plaisait, c'est le XVIIe siècle.
Ouais.
Voilà.
C'est un siècle qui vous...
Oui, parce que c'est le grand siècle. On a eu, en histoire de France, il y a deux personnages, je relisais ça là récemment dans un livre, il y a deux personnages, il y en a un pour le pouvoir absolu et la magnificence, c'est Louis XIV, et un autre pour la conquête militaire et les batailles, c'est Napoléon.
Mmh.
Donc ce sont nos deux grands personnages historiques.
Enfin, les flibustiers aussi, c'est pas mal du tout. Merci à vous, en tous les cas, François Cereza, pour Pavillon Noir, les joyeuses et terribles aventures des derniers flibustiers français aux Antilles. On sent que vous avez pris du temps, que vous avez pris... Voilà, vous
un
êtes...
Un peu de plaisir, quand même, aussi.
Beaucoup de plaisir,
ouais,
je
un
pense.
Un peu de plaisir, oui.
Et que vous aimez partager aussi ce bonheur d'écriture.
Merci à vous, Valère.
Voilà, merci à vous. Et puis, alors, je pense que vous travaillez, on vous retrouvera pour un prochain livre, sans aucun doute.
Oui, oui.
Et puis, le service littéraire.
Oui, bien
alors,
sûr.
Parution dans les kiosques. Le 1er avril, ça sera avec Zola,
là,
vous m'avez dit
oui,
Zola.
C'est Émile Zola, là, en couverture. Oui, oui.
Un grand, voilà, lui
ouais,
aussi.
Oui, un grand article sur donc Émile Zola, qui est fait par Bernard Morlino, un grand article de Philippe Bilger sur Régis Debray, et un grand article de Gilles Martin-Chauffier sur Michel Onfray.
Bon, bah écoutez, en tous les cas, le Zola est tout à fait. Merci à vous tous, c'était l'émission Bibliomanie avec aujourd'hui François Cereza. Vous pouvez podcaster, alors, pour Pavillon Noir, les joyeuses et terribles aventures des derniers flibustiers français aux Antilles, c'est paraît aux éditions de Paris. Vous pouvez podcaster l'émission sur le site de Radio Libertaire. Oui, podcaster. Partagez ce lien et puis le transmettre aux amis de vos amis. Merci à Flo Descailloux qui nous a accompagnés. C'était l'émission Bibliomanie et je vous dis à la fois prochaine.
Alors pour terminer, j'ai choisi deux chansons d'affilée, Fier et tremblant de Loïc L'Antoine et Marc Namour, parce qu'ils étaient fiers mais ils devaient quand même avoir la trouille de temps en temps, Fier et tremblant. Et ensuite une chanson d'Anne van der Love qui était bretonne et qui parle de liberté, libertad, freedom dans les trois langues. Alors, vous voulez Anne van der Love d'abord ?
Il faut que j'y aille.
Ah bon, allez, je vous mets Anne van der Love d'abord.
Anne van der Love.
Je ne sais plus quelle... Ouh là là. On va voir si... Monsieur... Je me suis peut-être trompée. Je me suis trompée. Alors, excusez-moi, c'est la 2.
La mer est grande, mais pas assez grande pour qu'au fond de l'eau se perde ton nom. Et tous les fleuves et tous les ruisseaux, quand ils y descendent, murmurent ton nom. Tu es comme un phare que l'on nomme, un phare que l'on nomme liberté, liberté, freedom. La nuit est sombre, mais pas assez sombre pour que dans ses voiles s'éteigne ton nom. Et tous les feux de milliers d'étoiles s'atténue dans l'ombre quand brille ton nom. Tu es la lumière qui rayonne, la lumière qui rayonne. Liberté, libertad, freedom. La route est longue, mais pas assez longue pour que la poussière efface tout. Et tous les murs, toutes les frontières, jamais ne pourront retenir ton nom. Un oiseau que nul n'emprisonne, que nul n'emprisonne. Liberté, liberté, freedom. La lutte est dure, mais jamais trop dure, pour qu'au fond du cœur s'épuise ton nom. Et tant de peuples se battent tes mains, et tant de blessures dessinent ton nom. Tu es le plus beau chant des hommes, le plus beau chant des hommes. Liberté, libertad, freedom. And freedom soon will come. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même.
de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois, Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait, jamais ne reviennent le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les hommes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Pas mes hommes, et pourtant ils me donnent des frissons de violon, des vagues d'accordéon pour bercer mes chansons sous l'art des projecteurs, côté cour ou jardin, côté cour, côté cœur, sur la scène auprès d'eux. J'avoue, je me sens bien, côté cour ou jardin, côté cour, côté cœur, sur la scène auprès d'eux. J'avoue, je me sens bien. Il n'est pas de chemin qui me semble trop long pour aller avec eux, faire chanter mes chansons. Ils sont les passeurs des émois de mon cœur, côté cour ou jardin, dans la lumière bleue, sur la scène auprès d'eux. J'avoue, je me sens bien, côté cour ou jardin, dans la lumière bleue, sur la scène auprès d'eux. J'avoue, je me sens bien. Ils ne sont pas mes hommes, et pourtant quand ils prennent ma dernière chanson comme un nouvel enfant, ils l'entourent aussitôt des plus beaux contre-chants. Mon cœur bat le tempo dans l'endroit des égrènes, ils ont plus de tendresse que le meilleur amour. Côté cour ou jardin, sous l'or des projecteurs, côté cour, côté cœur, j'avoue, je me sens.
En attente, il est 20h30 et voilà que l'on tente. Nos mots de tous les jours, on les a préparés, habillés en dimanche, assis sur la grammaire. Ce qu'on dit, c'est pas vrai, mais on l'a mérité. Aujourd'hui, maintenant, on vous attend en frère. On sait que c'est tout droit, pour pas être à l'étroit, on écarte le chemin et on le nomme demain. On danse et on avance, il ne fait plus trop froid, c'est le feu du mélange. Il gonfle notre pain.
L'ambiance m'apporte, j'enchaîne. Les rimes sortent sans peine. Prends le contrôle de l'antenne en scène. Dans l'oreille qu'on t'engraine. C'est l'heure de parler par cœur. L'heure de garder l'ardeur. L'heure de chasser la peur. C'est l'heure de vider quelques chargeurs. Avec Loïc on a croisé les vers. L'époque est délétère, on a jugé la réplique nécessaire. J'ai la plume de mes pères. J'ai la voix des précaires. Longue peine, joie éphémère. Nerf à vif, le revers est sévère. Nos chansons ne se chantent pas, non. Leurs chansons ne me tentent pas, vieux. Poétique et l'attentat, je frappe là où l'industrie ne l'attend pas. Je fais des pompes, des pompes. Je fais des bombes, des comptes. 2.0, je viens choquer les pontes.
Pas facile de faire le salut. Vous dans le noir, nous tout nus. Quand l'homme pleure, il a plu. Quand il est fier, il a cru. Chez vous, on chambre la fête. Avec le jus de nos têtes. On veut être beau, on veut être bête. La musique nous pousse des crêtes. Alors les timides crient, on a peur mais on en rit, on danse sur les débris.
C'est la mise à nu, le fruit de la crise t'as vu. Dès le début ça frise l'abus, bienvenue c'est le cri de la rue. Fier et tremblant, des mots clairs et tranchants. Il est l'heure, il est grand temps, tu sens comme l'air est sanglant. Pas de caresses, que des griffes, pas de baisers, que des gifles, pas d'éthique, que des chiffres. Bailleur, orfèvre, recherche pépite hors pair. Guérite sommaire, poète corsaire, j'hérite du mythe d'Homère. Et je m'élance à travers les ronces, épaulé d'illustre présence. Énonce mes questions sans réponse, mélopée de l'errance. Dérober l'espérance, démenoter mes chances. Me laisser dériver jusqu'au port de plaisance. Fier et tremblant. Fier et tremblant.